Au niveau du MCV, c'est d'après la liste donnée par les membres du secrétaire FNL qui sont au MCV, c'était 687. C'était le chiffre de départ. Après, on a mis sur pied une commission juridique qui a été mise sur pied par le ministre de la Justice. Cette commission est partie dans les prisons et dans les postes de police pour vérifier les dossiers de ces détenus du FNL. Ils ont trouvé que 247 dossiers étaient éligibles à la libération parce que tous les critères demandés, toutes les conditions étaient réunies pour les 247. Malheureusement, quand le MCV est parti pour essayer d'identifier ces personnes à libérer, on n'a pu trouver que 117 dans toutes les prisons et postes de police. Et ces 117 ont été libérés. Nous avons rencontré quelques difficultés au niveau de la prison de Bujumbura et de la prison de Gitega, où il y a eu une résistance de ceux qui sont supposés être libérés par les autres, mais qui ne sont pas sur la liste des gens à libérer. Ils ont fait une résistance s'opposant à la libération de ces gens qui remplissent les conditions qu'il faut pour être un prisonnier qualifié du palais pour votre FNL.
Les prisonniers qui manquent, vous avez dit 247, il y en a 117. Le restant, les autres prisonniers, ils sont où?
Ils sont de plusieurs catégories. Il y a une catégorie qui avait été libérée bien avant, au cours des années 2007-2006, voire même début 2008. Il y avait d'autres qui ne remplissaient pas les conditions d'après les dossiers, notamment ceux qui avaient commis des crimes après la signature des accords de cessez-le-feu entre le gouvernement et le mouvement par les plus hautes FNL, je veux dire après le 7 septembre 2006. Il y a aussi d'autres cas qui ont commis des délits avant cette date, mais d'autres genres, c'est-à-dire des infractions de droit commun. Ceux-là ne pouvaient pas être considérés qu'ils appartenaient au Parti Pirouto FNL parce que c'était des délits qui ne sont pas liés au mouvement. Nous allons effectivement essayer de retrouver d'autres erreurs qui se seraient commises dans la libération. Dans tous les cas, tous les prisonniers politiques et de guerre ne seront pas libérés parce que il y en a beaucoup qui sont reconnus comme membres du palais.
Apparemment, il y a aussi des poids lourds du FNL qui ne se retrouvent pas sur les listes.
Ce sont justement de ces erreurs dont je vous parle. Je reconnais qu'il y a eu des erreurs. On va essayer de rectifier. Mais je vous dis que tous les prisonniers politiques qui se croient personnes qui veulent nous convaincre qu'ils appartiennent au propos des FNL ne sont pas tous éligibles.
Le général Ndaza Ndouayo, représentant du gouvernement de la commission chargée de vérifier le statut de prisonnier FNL au Burundi. RDC, difficile de construire à Kinshasa pour cause de pénurie de ciment. Les résidents qui veulent vivre dans de meilleures conditions ne savent plus où donner de la tête, nous dit notre correspondant dans la capitale congolaise, Eddie Isango.
À Kinshasa, beaucoup de chantiers qui commençaient à pousser ça et là sont à l'arrêt. La raison est simple, les ciments se font rares. Emery Makoumenou est parmi ces quelques jeunes Congolais qui s'étaient engagés à construire un petit habitat et qui se trouvent aujourd'hui bloqués.
J'ai arrêté les travaux parce que dans mes prévisions, je pensais que les sacs de ciment c'était 10, 12 dollars. Mais maintenant à 50 dollars, je ne peux plus faire autrement, j'ai arrêté carrément, j'attends que le prix se stabilise. Il y a beaucoup de chantiers ici qui sont à l'arrêt complètement.
Sur le marché, le ciment est à nouveau assez visible, mais il s'agit surtout du ciment importé auquel les Congolais apprennent à s'habituer et qui est vendu à des prix hors de petites bourses. Le président du collectif des défenseurs de consommateurs congolais, Christophe Tshibumbu.
Il y a des situations créées de toutes pièces pour justifier une disposition. Est-ce qu'on ne cherche pas à privatiser Sinat ? Maintenant que Silou est à l'arrêt.
À part la Sinat, la RDC dispose d'autres cimenteries qui ne marchent pas du tout aujourd'hui. L'Assemblée nationale, saisie de la question, a même statué là-dessus. Jean Bamanista, vice-président de la cellule parlementaire des réflexions sur les ciments.
Si la Sinat est arrivée là comme beaucoup d'entreprises publiques, c'est parce qu'elle a été mal gérée pendant plusieurs années. Aujourd'hui, elle a du matériel qui n'a pas été entretenu. Donc, suivant les documents que nous avons reçus, avec 45 millions de dollars que les actionnaires présents déjà dans la Sinat, parce qu'il y a 8% qui sont entre les mains des actionnaires privés, et ils sont prêts à porter ce montant pour arriver vraiment à augmenter la production jusqu'à 1 million de tonnes.
Selon lui, le travail de la cellule a permis entre autres qu'un arrêté interministériel soit pris en vue de permettre l'importation du ciment sans droit d'entrée ni taxe à l'importation. Le gouvernement a aussi pris d'autres mesures pour alléger les prix du ciment importé. La cellule a en outre recommandé que l'État, qui est l'actionnaire majoritaire à Sinat, avec 91,7% de parts, récapitalise l'entreprise avec les partenaires minoritaires et libère de nouvelles actions pour de nouveaux souscripteurs, suivant de nouveaux Bamanissa.
Entre-temps, les nouveaux investisseurs qui viennent, en tout cas qui toquent à la porte ici, doivent être encouragés. Il faut que le gouvernement donne des incitatives, mieux que celui du code des investissements peut-être, pour que de nouvelles usines puissent s'installer en RDC.
Pour Bamanissa, l'urgence impose une action rapide.
On n'a pas le temps d'attendre et on a vu malheureusement encore des ministres agir au nom de leur ministère pour privilégier telle ou telle voie. Mais entre-temps, il n'y a pas de production, il n'y a pas de solution qui est trouvée.
Aussi bien la cellule parlementaire que les consommateurs dénoncent ce qu'ils appellent les commerces triangulaires tenus par des gens qui s'interposent surtout grâce à leur position politique pour avoir une grosse part du marché. Ces gens font la rétention une fois qu'ils ont du ciment et entretiennent ainsi la spéculation. Dans le cadre de cette enquête, la Voix de l'Amérique s'est rendue à Kimpese dans la province du Bas-Congo, au siège de la Sinat. Ici, les machines imposantes qui se donnent à la vue menacent apparemment de s'écrouler pour connaître ainsi l'essor de l'autre cimenterie, la Silou, cimenterie de la Lukaya. L'administrateur directeur technique de la Sinat, que nous y avons trouvé, Valentin Zodi Kambika, nous explique.
Malheureusement, le constat que vous venez de faire est vraiment exact. Donc, ce qui est arrivé à la Silou, nous ne sommes pas à l'abri de ça. Donc, ce qui veut dire qu'il faut réhabiliter très vite la cimenterie nationale. Sinon, nous allons nous retrouver à une situation où il n'y a aucune cimenterie dans l'ouest du pays qui produit du ciment. Il nous faut un fonds de roulement pour pouvoir travailler de manière continue. Bon, à part le fonds de roulement, il y a aussi l'état de l'équipement. Les équipements sont devenus vraiment usés. D'autant plus que la plupart des équipements ont été là depuis 1974, donc depuis le début de la Sinat là-bas. Les plus grands créanciers, c'est l'État. Donc ce sont les taxes qu'on n'a pas pu payer, tout simplement parce que la production n'était pas suffisante.
Tout le monde est d'avis que les projets de reconstruction du pays par les gouvernements étant entre bloqués par cette crise du ciment. Tous attendent que les résolutions proposées soient rapidement mises à exécution en vue d'arriver à satisfaire les besoins de près de 4 millions de tonnes par an que présentent les pays. Edi Sango, Kinshasa, La Voix de l'Amérique.
Autre pénurie dans la région, celle du charbon au Tchad. Les ménagères ont protesté cette semaine à N'Djamena contre cette situation qui complique la tâche de nourrir leur famille. Le point avec notre correspondant à N'Djamena, François Djekombe.
Cette manifestation qui consistait pour les femmes à taper sur les marmites vides le long de leur marche pour dénoncer la pénurie de gaz et de charbon de bois a été très vite circonscrite par la police ce mercredi matin. Certains ronds-points de N'Djamena étant retenus comme point de départ menant au lieu de rassemblement, les femmes se trouvant au rond-point de Dembe auraient été violemment dispersées par la police. Cette manifestante ne comprend pas pourquoi le gouvernement a déployé la police pour interdire une marche pourtant pacifique.
Oui, je suis désolé par ce comportement qui est d'une autre âge. Nous, notre marche était pacifique. Et cette marche est pour revendiquer le droit à la survie. On ne vit pas au Tchad, mais on survit. Le coût des denrées de première nécessité n'est pas à la disposition des Tchadiens moyens de nos jours en N'Djamena. Le SMIC est à 25 000 au moment où le sac de charbon aussi coûte 25 000. Mais on n'est pas là pour renverser un régime, mais c'est pour faire changer la manière de servir du système. Que ça soit clair dans la tête de nos autorités. Parce que on peut pas prétendre gouverner les vivants et les faire tous les jours avaler les couleuvres.
Madame Marie Yondamne, secrétaire générale de la CELIAF, insiste également sur le caractère pacifique de la marche des femmes, tout en désapprouvant l'action de la police.
Bon, nous voulons organiser des actions pacifiques. Nous ne voulons pas d'une action violente. Nous voulons tout simplement être écoutés. Nous pouvons taper sur les marmites pour dire que les marmites sont vides. Nous pouvons encore rester à la maison. Ça va être une désobéissance civique là. Parce que les femmes en auront le bol. Quel gouvernement qui ne peut pas vouloir ou prétendre écouter son peuple ou sa population? C'est ça notre problème. Qu'on concilie avec nous, que les décisions soient prises de en concertation. Analyser, prévoir avant de prendre une décision. C'est parce que la décision a été prise d'une manière brutale. La rupture est telle que on est asphyxié, on n'arrive plus, on est dépassé.
Il faut dire que c'est depuis plusieurs semaines que la crise de charbon et de gaz frappe les ménages tchadiens. À N'Djamena, la capitale, le phénomène prend une autre ampleur. Les femmes s'attaquent aux hangars et clôtures faits de bois pour allumer le feu. Il n'est pas aussi rare de voir les hommes ramener de leur lieu de travail des branches d'arbres pour la cuisine. À N'Djamena, le gaz ne se voit plus. Et ceux qui franchissent la frontière camerounaise pour espérer en trouver à Kousseri ramènent les bouteilles vides. Contacter le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique nous a opposé une fin de non-recevoir. Apparemment, la fin du calvaire n'est pas pour demain. François Ndjekombe, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Des responsables du football européen et d'anciennes vedettes du ballon rond sont en visite au Caire dans le cadre de la campagne anti-pauvreté de la FAO, l'Agence onusienne pour l'alimentation et l'agriculture. Camille Gros-Didier a joint au siège de l'organisation à Rome, Sidati Aïdara.
Malgré les efforts qui ont été accomplis jusqu'à présent dans tous les domaines agricoles, dans le domaine des forêts, dans le domaine de des pêches, dans le domaine de la nutrition, il y a tout de même aujourd'hui 963 millions de personnes qui souffrent de la faim à travers le monde et ce nombre a été augmenté en raison du renchérissement des prix des denrées alimentaires et des intrants agricoles. Cette visite donc de terrain a vu la participation du directeur exécutif de IPFL, des ligues de football professionnelles allemandes, espagnoles, italiennes, portugaises, auxquelles se sont joints des stars du football mondial et anciennes gloires du football mondial, telles que Paolo Rossi, Hans Müller, qui ont retrouvé d'ailleurs sur place en Égypte des célébrités locales du football égyptien, telles que Abou Trika et Mohamed Barakat. Donc cette occasion a été une bonne opportunité pour la délégation, disons, IPFL, Bar et FAO, de visiter des projets téléfoot de la FAO au niveau de l'Égypte.
Cette campagne de sensibilisation engage les 28 ligues membres de l'Association européenne des ligues de football professionnel, c'est-à-dire près de 960 clubs de football professionnel à travers l'Europe.
C'est cela. Et si vous considérez également le nombre de fans et de mordus du football qui suivent le football, vous y ajoutez certainement quelques millions de personnes qui représentent un potentiel énorme de sensibilisation autour du problème de la faim dans le monde.
Ces matchs en mars vont permettre de réunir des fonds pour venir en aide justement aux personnes qui ont faim de par le monde.
Oui, et bien sûr, la FAO attend beaucoup de cette campagne qui implique le football, qui est devenu, comme vous le savez, un phénomène mondial. Elle attend beaucoup sur le plan de la sensibilisation de l'opinion, sur le plan de la mobilisation des bonnes volontés, sur le plan de la volonté politique à mobiliser pour booster encore une fois la lutte contre la faim dans le monde, et bien sûr, si possible, des ressources financières en faveur de cette lutte contre la faim et la pauvreté dans le monde.
Sidati Aïdara, responsable de la FAO à Rome. Au Proche-Orient, l'armée israélienne continue son offensive contre le Hamas dans la ville de Gaza. Un haut responsable du groupe militant palestinien a été tué hier et des obus israéliens sont tombés sur 3 hôpitaux, un centre de presse et un complexe de l'ONU. Les précisions de Jean-Claude André.
Les Nations Unies ont rejeté les explications d'Israël selon lesquelles les forces israéliennes ont pilonné ce complexe parce que des militants tiraient à partir de ce site. Selon des responsables des Nations Unies, ces obus qui ont fait 3 blessés semblaient être munis de charges au phosphore blanc qui peut occasionner de graves brûlures. Plusieurs journalistes ont été blessés dans l'attaque du centre de presse. De leur côté, des militants palestiniens ont tiré au moins 15 roquettes sur le sud de l'État hébreu hier, blessant au moins 5 personnes. Au plan diplomatique, un officiel israélien, Amos Gilad, était hier au Caire afin de discuter du plan de l'Égypte pour l'instauration d'une trêve. Il est ensuite retourné en Israël pour consultation avec les dirigeants israéliens. Par ailleurs, des officiels israéliens disent que Washington est prêt à apporter son aide afin de résoudre le problème de l'acheminement en fraude d'armes aux militants du Hamas à Gaza. Le bureau du Premier ministre israélien Ehud Olmert indique que la secrétaire d'État Condoleezza Rice a fait cette offre au gouvernement israélien par téléphone hier.
Actualité américaine. La Chambre des représentants du Congrès des États-Unis donne son feu vert à l'expansion du programme d'assurance santé pour les enfants des familles à revenus modestes ou moyens, alors que le chômage augmente dans le pays. Le point avec Samuel Kenrebiogo.
Ce programme, adopté initialement en 1997, est l'une des priorités de la majorité démocrate et son expansion a été approuvée par 289 voix pour et 139 contre. Mais beaucoup de parlementaires de la minorité républicaine restent opposés au projet qu'ils qualifient d'exemple de gaspillage de fonds pour aider des familles qui n'en ont pas vraiment besoin. Une opinion partagée par l'administration Bush qui a opposé deux fois son veto à l'expansion du programme lors de la précédente législature. Mais les démocrates ne jettent pas l'éponge et ils reviennent à la charge cette année avec d'autant plus de détermination qu'ils disposent maintenant d'une majorité accrue dans le nouveau Congrès. Lors des débats qui ont précédé l'approbation du projet par la Chambre, le député démocrate Alcee Hastings n'a pas mâché ses mots en critiquant les précédents vétos du président sortant George Bush.
President Bush's actions sent a devastating message.
Les actions du président Bush, dit-il, ont transmis ce message dévastateur. Le leader du monde libre est prêt à mettre en danger la vie et le bien-être de millions d'enfants américains, a souligné le député noir de Floride. Mais son collègue républicain Pete Sessions estime que les démocrates veulent maintenant trop en faire avec ce programme d'assurance santé qui arrive en principe à expiration le 31 mars.
Making sure that we just expand this program to meet every single need.
Garantir l'expansion du programme pour couvrir les besoins de chaque enfant n'était pas l'objectif initial du projet. Une expansion d'un montant de 35 milliards de dollars aidera à mettre en faillite non seulement le pays, mais aussi les États qui essaient de fournir ces services, a souligné le député Sessions. La mesure adoptée par la Chambre va maintenant être considérée par le Sénat, également à majorité démocrate. Un examen qui interviendra dans un contexte de forte augmentation du chômage, selon les dernières statistiques en ce sens publiées jeudi par le Département américain du travail. 524 000 Américains de plus se sont inscrits à l'assurance chômage la semaine dernière. Or, la seule couverture médicale dont disposent beaucoup de familles américaines est fournie par les employeurs.
Washington, la voix de l'Amérique. La page sportive est présentée par Timothée Nonangmaï.
Course cycliste Tropical Amissa Bongo au Gabon, le Sud-Africain James Ball de l'équipe House of Paint a remporté hier en 2h36 minutes et 32 secondes la troisième étape entre Léconie et Franceville, une étape longue de 99 km. Le Français Mathieu Ladagnou de la Française des Jeux conserve la tête du classement général. Au Rallye Dakar, abandon hier du leader chez les autos, l'Espagnol Carlos Sainz, dont la Volkswagen a fini dans une ravine. Son copilote, Michel Perrin, souffre d'une fracture à l'omoplate. C'est un autre pilote de Volkswagen, le Sud-Africain Giniel de Villiers, qui a remporté la 12e étape, prenant du même coup la tête du classement général. Chez les motos, le Français Cyril Després sur KTM était le vainqueur de l'étape d'hier, devant son compagnon d'écurie, l'Espagnol Marc Coma, leader au classement général. Coup d'envoi aujourd'hui en Croatie du championnat du monde de handball masculin. 24 pays prennent part à cette compétition qui se déroulera dans cette ville. Parmi les favoris, la France, médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin. Les couleurs africaines seront défendues en Croatie par la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte. Enfin, football, la FIFA a fixé au 2 février la date limite du dépôt des candidatures pour l'organisation des Coupes du Monde de 2018 et de 2022. Les pays candidats doivent disposer d'une dizaine de stades d'au moins 40 000 places et d'un stade d'au moins 80 000 places pour la finale. La Fédération internationale demande également des centres de presse, des infrastructures d'accueil et de transport de la plus haute qualité.
Voilà, c'est tout ce matin pour aujourd'hui l'Afrique centrale, ouverte sur le reste du monde. À la mise en onde, Anne Albertson, au micro, Henri Francisque. Merci de votre attention, bonne journée et bon week-end.